7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des femmes trentenaires et de la pression pour la maternité. En France, 20% des femmes de 35 ans n'ont pas d'enfants et connaissent par cœur la petite phrase « Et toi, tu t'y mets quand ?» C'est votre cas, Myriam Levin.
Bonjour.
Cette petite phrase, vous l'avez beaucoup entendue. Bonjour à vous, merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous êtes journaliste, jeune entrepreneuse, vous avez cofondé un site féminin en ligne qui s'appelle Chic Magazine. Vous avez enquêté sur cette pression à la fois sociale et scientifique qui pèse sur les femmes trentenaires et vous racontez dans votre livre « Et toi, tu t'y mets quand ?» vos inquiétudes quant à la chute de la fertilité après 35 ans et vous relayez une des questions les plus partagées par les femmes aujourd'hui, avoir un enfant ou pas et si oui, à quel moment ? Pour ne pas vous laisser piéger par l'horloge biologique, vous avez décidé d'aller en Espagne faire congeler vos ovules et vous allez nous expliquer pourquoi. Avec la révision programmée des lois de bioéthique, le débat médiatique s'est surtout focalisé sur la PMA, donc la procréation médicale assistée pour les couples de femmes et les femmes seules qui veulent faire un bébé par don de sperme. On parle beaucoup moins de ces femmes hétérosexuelles, célibataires malgré elles, et accusées de faire passer leur carrière avant leur désir d'enfant. Nous allons discuter également avec vous, Sophie Cadalen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et vous avez publié « Aimer sans mode d'emploi et vivre ses désirs ». Et quant à vous, les voisines, dites-nous chez vous comment est perçue la situation des femmes trentenaires sans enfants. Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est notre numéro de téléphone WhatsApp ou sinon sur le standard. C'est le même numéro et bien sûr, on vous rappelle et on vous donne la parole tout à l'heure. Je vous lis un message posté sur notre réseau social Facebook MX qui est en République démocratique du Congo et nous dit mais en Afrique on pense que notre durée de vie est plus courte qu'ailleurs dans le monde alors on se dépêche de faire des enfants avant 30 ans. Moi j'ai eu le premier à 21 ans et je les considère finalement comme mes jeunes frères et sœurs. On va vous donner la parole tout à l'heure. Appelez-nous si vous vous interrogez sur ce moment ou pas de faire un enfant et dites-nous comment vous devez intégrer ce que pensent les autres dans votre propre choix de vie. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Et aujourd'hui, on dit quoi ? Le jour de ses 35 ans, Myriam Levin, parce que tout commence dans votre livre, le jour de vos 35 ans, bah c'était il y a déjà quelques mois, le temps de publier le livre, un anniversaire. Et quelle est votre situation personnelle à ce moment-là ?
Eh bien, le jour de mes 35 ans, je suis célibataire, sans enfant et relativement heureuse de l'être. Hein. C'est important aussi de le rappeler. J'ai une vie libre, je travaille, je voyage, je sors. Mais c'est vrai que autour de moi, tout le monde s'est mis largement à faire des enfants et que comme j'écris sur les femmes et que je travaille sur ces sujets-là, j'ai entendu souvent que 35 ans était un cap, mais je ne sais pas très bien pourquoi. Du coup, je décide de me renseigner. Et là débute ma quête personnelle et professionnelle, puisque ça donnera lieu à ce livre, puisque je découvre qu'en fait, à partir de 35 ans, la fertilité des femmes commence à baisser. Donc, chez certaines femmes, c'est 32, chez d'autres, ça va être 38. C'est un chiffre statistique, 35 ans, mais c'est identifié comme le moment où les ovules des femmes commencent à être produits en plus petite quantité et en moins bonne qualité. Et c'est directement ça qui entraîne la chute de la fertilité.
Oui, une chute de la fertilité que finalement vous révélez que les filles semblent ignorer à cet âge-là. Parce
oui.
qu'elles se sentent en pleine forme et encore très jeunes.
Exactement, je pense qu'on est à une époque, à une génération sur laquelle j'écris beaucoup, qui fait tout plus tard, qui du coup vit, c'est ce qu'on appelle les adolescents. Voilà. On reste des jeunes adultes très longtemps, on fait plus jeune, on a des modes de vie pas forcément adultes traditionnels, donc on ne se rend pas forcément compte que notre corps, lui, il a 35 ans. Pour les femmes en tout cas.
Vous décidez d'aller en Espagne pour faire congeler vos ovocytes. Comment vous en arrivez là ?
Alors, donc j'avais entendu parler de cette congélation d'ovocytes parce que dans la presse féminine, il y a eu pas mal d'articles il y a déjà quelques années et moi, ça me paraissait loin. Mais donc, je savais à peu près comment ça se passait. J'avais entendu autour de moi des filles qui le faisaient et du coup, j'ai été demander conseil à mon gynéco à Paris puisque je me doutais bien qu'il voyait passer des femmes qui le faisaient. Et voilà, en parallèle, j'ai pris contact avec une clinique en Espagne. Par le bouche à oreille, je connaissais des femmes qui étaient allées là-bas. Et donc, parallèlement, j'ai pris des contacts en Espagne tout en entamant des examens en France pour pour vérifier que tout allait bien, quand même, que ça valait le coup de le faire. Donc j'ai fait des prises de sang, des échographies. Un premier rendez-vous en Espagne où on m'a dit bon, c'est OK pour nous, on peut le faire. Et ensuite, le cycle d'après à peu près, j'ai commencé un traitement hormonal qui est exactement le même traitement, qui est le traitement pour une fécondation in vitro. Donc 15 jours d'injection pour stimuler les ovaires et produire le plus d'ovocytes possible jusqu'au jour J où par téléphone la clinique suivait mes résultats et m'a dit c'est bon, il y en a assez, vous venez maintenant, dans 36 heures, on vous fait une anesthésie générale et on vous prélève les ovocytes.
Résultat des courses ?
Résultat des courses plutôt encourageant parce que j'en ai eu 13 congelés, ce qui est plutôt bien.
13 ovocytes vitrifiés.
Vitrifiés, en fait. Pardon, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose. La vitrification, c'est une congélation ultra rapide et c'est une technique nouvelle que les médecins commencent à maîtriser mais qui est assez récente dans le monde puisqu'elle a 15 ans à peu près. Et du coup, est encore assez méconnue même si les médecins la maîtrisent parfaitement.
13 ovocytes vitrifiés, pourquoi faire ?
Dans l'idée que un jour, alors c'est beaucoup de si, comme je dis souvent, c'est si je décide d'avoir un enfant sur le tard et si je n'y arrive pas naturellement, je peux donc décongeler, même si c'est pas le terme exact, dévitrifier ces ovocytes et faire une fécondation in vitro avec. Sauf que, mettons que j'ai 42 ou 43 ans à ce moment-là, mes ovocytes auront toujours 35 ans et il est prouvé qu'il y a beaucoup plus de chances que la fécondation in vitro marche avec des ovocytes plus jeunes.
Donc vous avez encore dans l'optique de rencontrer un homme.
Tout à fait, c'est pour ça que je l'ai fait et c'est pour ça que la plupart des femmes le font, c'est parce que justement on a 35 ans, on n'a pas le bon partenaire, donc on a encore quelques années, mais on ne veut pas se précipiter. Elle est là, cette pression sur l'horloge biologique, mais plutôt que de se précipiter et faire un enfant avec le premier venu, on se dit laissons-nous quelques années pour le faire de façon sereine, avec la bonne personne au bon moment.
Précisons que la congélation des ovocytes est légale en France uniquement pour une certaine catégorie de femmes hein, qui sont gravement malades et qui subissent un traitement qui risquerait de compromettre leur fertilité, ou à celles qui donnent leurs ovocytes, et que donc ce que vous avez fait n'est pas légal en France. Vous n'auriez pas pu le faire.
Non, j'ai pas pu. Et je savais depuis le début que je pourrais pas le faire. Et c'est justement l'objet des révisions de loi de bioéthique cette année. On va discuter de ce point-là. Et j'espère sincèrement que ce sera légalisé parce qu'il y a déjà beaucoup de pays dans lesquels c'est et on est très en retard.
Combien ça vous a coûté ?
Ça m'a coûté dans les 4000 euros à peu près. En fait, ça coûte 2500 euros la ponction en elle-même, là où je l'ai fait en Espagne. Ça varie un peu d'une clinique à l'autre.
Dans une clinique privée ?
Voilà, clinique privée. Mais à cela, il faut ajouter le traitement hormonal qui est assez lourd, plus les frais de déplacement, d'hébergement. Donc en gros, on dit que ça revient à 4000 euros.
4000 euros pour une assurance bébé ou pas ?
Non. 4000 euros pour une chance en plus, un plan B, comme m'a dit une des médecins que j'ai interviewé, puisque c'est pas parce qu'on a des ovocytes qu'on va tomber enceinte, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on va pas faire de fausse couche. Enfin, il y a beaucoup de paramètres avant d'avoir un enfant. Et donc, j'ai tout à fait en tête que c'est pas parce que j'ai fait ça que je suis sûre d'avoir un enfant un jour.
Sophie Cadalen, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choix aujourd'hui, assez peu médiatisé, parce qu'au lendemain des états généraux de la bioéthique qui se sont achevés il y a quelques jours, on retient surtout le débat qui divise sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules qui veulent faire donc un enfant avec un don de sperme anonyme. On n'a pas beaucoup parlé, voire presque pas, des femmes comme Myriam Levin qui se projettent dans l'avenir avec un compagnon et des enfants, mais qui se font en quelque sorte piégées par l'horloge biologique.
Oui, ce débat, il est assez effarant quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour, de constater qu'en France, il est tout nouveau. C'est une technique qui est utilisée largement dans les autres pays.
Et très confidentiel.
Très confidentiel et qui correspond à une réalité. C'est souvent confondu avec une espèce... Alors, où ce sont des choix effectivement de vie ou d'orientation sexuelle qui font que là on est obligé d'avoir recours à mais on néglige la réalité des femmes d'aujourd'hui, leur vie qui a changé, les âges qui ont changé dans le sens où on ne vit plus les mêmes choses aux mêmes âges, les possibilités qui ont changé aussi, mais celle-là pour le coup de la possibilité de faire un enfant à une période précise qui elle n'a pas beaucoup changé, et c'est souvent assimilé à une espèce de caprice. Voilà, on voudrait que ce soit une espèce d'option supplémentaire. En tout cas, on croit que c'est une option supplémentaire, mais comme l'a dit Myriam, déjà, ça ne garantit rien. Mais c'est en tout cas sortir de cette espèce
c'est
de...
C'est ça, mais une forme quand même de quête de l'assurance.
Non, pas de quête de l'assurance, c'est du possible. Parce que je crois, Myriam le dit, ça n'assure rien, ça n'assurera pas de rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de fonder un foyer, parce que ça pose aussi la question du désir d'enfant. Myriam ne dit pas qu'elle veut un enfant à tout prix. Elle veut avoir la possibilité de peut-être essayer d'avoir un enfant si dans sa vie elle se dit un jour j'ai peut-être là envie avec cet homme-là de faire un enfant.
Il y a un an, le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, s'est prononcé en faveur d'une ouverture de la procréation médicalement assistée, hein, la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, mais elle s'est déclarée contre la congélation. Pourquoi ?
Ah, je ne sais pas. je ne sais pas. Je ne crois pas que grand monde d'ailleurs qui s'y intéresse d'à peu près ait compris cette décision.
C'est vrai que c'était un peu incompréhensible. Il y a quelques arguments qui ont été mis en avant, mais qui ne tiennent pas vraiment la route, puisque les principaux de mémoire sont que ce serait un traitement trop lourd, avec des risques trop importants pour les femmes. Or, il y a 1% des cas où il y a des complications. Et par ailleurs, ces traitements sont autorisés si on donne nos ovocytes. Donc, on autorise les femmes à prendre des risques pour d'autres, mais pas pour elles-mêmes. Donc, ça tient pas la route. Et l'autre argument qui était avancé, c'est que ça permettrait aux entreprises de faire pression, si c'était légalisé, sur les femmes pour qu'elles retardent le moment de leur maternité pour faire carrière.
Or, c'est le cas aux États-Unis où plusieurs entreprises ont en tout cas proposé à des femmes de leur rembourser les démarches médicales de congélation des ovocytes.
Exactement.
Des multinationales très connues.
Voilà. Mais ça veut pas dire qu'elles obligent les femmes à le faire. C'est une option et en effet, je pense que des femmes comme
oui,
moi qui l'ont payé de leur poche, je serais pas mécontente.
Ça peut être compris comme une forme de pression, une pression à la carrière, là, pour le coup, et non pas une pression à la maternité.
Alors moi, je trouve pas du tout. On est content de se faire rembourser ses lunettes, on est content de se faire rembourser sa congélation quand on paye 4 000 euros de notre poche, ou 8 000 ou 12 000, parce qu'en plus, c'est plus cher aux États-Unis. Donc, il faut bien voir que le système de santé américain a rien à voir avec le nôtre. Et je crois qu'on a un peu surinterprété, en plus, c'est deux entreprises seulement, et qu'on est très très loin d'entreprises qui mettre la pression sur les femmes, et surtout c'est prendre les femmes un peu pour des imbéciles de penser qu'elles n'ont pas leur libre arbitre sur la question.
En tout cas, le sujet n'est pas tabou aux États-Unis. On voit les sœurs Kardashian qui s'interrogent publiquement sur l'opportunité de faire congeler leurs œufs, comme elles disent. Donc c'est beaucoup moins confidentiel que dans un pays comme la France.
Oui, oui, une chanteuse comme Rita Ora a dit qu'elle l'avait fait. Il y a des blogueuses, enfin il y a eu pas mal, j'ai trouvé pas mal de littérature anglophone sur des femmes qui disaient qu'elles l'avaient fait. En France, on ne sait même pas que ça existe. On croit que...
Et vous avez cherché des gens connus pour en parler.
Exactement, mais comment savoir qui a fait quoi de ces ovocytes? En fait, c'est pas écrit sur la tête des gens. Et j'ai eu quelques pistes, mais en fait, c'est hyper tabou. C'est-à-dire que les femmes qui approchent de la quarantaine et qui n'ont pas d'enfants le vivent généralement assez mal. C'est rare. Alors, il y a une minorité de femmes qui n'ont pas d'enfants, qui savent qu'elles n'en auront pas et qui n'ont aucun problème à en parler. Mais il y a toutes celles qui sont un peu entre deux et qui ont l'impression d'être en échec. Et je trouve ça bien dommage.
Dans votre enquête, quelles sont les raisons qui poussent des femmes? Alors, vous avez essayé de les dénombrer. On ne sait pas combien de femmes partent pour la Belgique ou pour l'Espagne pour faire congeler leurs ovocytes?
Non, il n'y a aucun recensement, donc c'est clinique par clinique. J'ai eu quelques chiffres et j'étais étonnée, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus.
De ce que vous avez compris de leur motivation, vous vous êtes reconnue dans leur motivation ou c'était des histoires toutes très différentes?
Non, c'est tout le même profil et même dans les
C'est-à-dire
autres pays.
C'est-à-dire la fille qui ne trouve pas le bon compagnon?
C'est quasiment tout le temps la fille qui ne trouve pas le bon compagnon, une fille qui a fait des études longues, qui s'est investie dans son boulot, qui a plutôt réussi, donc qui a aussi les moyens financiers, hein, on y revient, mais qui n'a pas envie de renoncer, qui n'a pas envie de faire un enfant toute seule là, maintenant, et qui veut se laisser une chance en plus. Et donc, c'est vrai que c'était troublant, parfois, quand j'ai parlé avec une Espagnole, de voir qu'elle se posait exactement les mêmes questions, quand je lisais les témoignages des Américaines, exactement les mêmes mots. Voilà. En fait, finalement, il y a un profil de femmes qui est sûrement les nouvelles femmes dont vous parliez, Sophie Cadalet.
Oui, oui, et un profil qui, encore chez nous en France, est déconsidéré. C'est encore la pauvre fille qui a... J'avais écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait « Tout pour plaire, toujours célibataire ». Voilà, c'est cette tranche d'âge où il y aurait une espèce d'obligation à ce qu'à un moment donné, quand même, arrivé à 30 ans, bon voilà,
les filles font peur aux hommes.
Oui, mais ça aussi, ça me paraît être aussi un petit peu de l'ordre de la légende.
Cliché ou pas,
oui. Oui, c'est un argument qui ne dit pas grand-chose, en fait, qui peut faire peur à plein d'égards et puis pas du tout à d'autres. Mais ça raconte surtout que nos vies ont changé, que les femmes, comme les hommes, ne se précipitent pas dans la conjugalité, dans la maternité, dans la famille, et que ce qu'on autorise depuis très longtemps, aux hommes, ben, maintenant, les femmes ont à le conquérir. Et on trouve ça, voilà, on n'a pas encore compris que c'était une histoire d'hommes et de femmes ensemble.
Alors cette question, avoir un enfant ou pas, et quand, ça peut être la question pour le deuxième enfant, et pas seulement pour le premier. Est-ce que les femmes peuvent se la poser en toute conscience, sans tenir compte du regard de la société? On aimerait avoir vos points de vue, les voisines bien sûr, et vos témoignages. Appelez-nous au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le WhatsApp. I know you like it, get your girl off. No time for talk. Yemi Alad chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct du lundi au vendredi. Aujourd'hui, question de femmes qui intéresse aussi accessoirement un peu les hommes. Avoir un enfant, oui, quand, comment. On parle de la pression que subissent les trentenaires pour la maternité. On en discute avec vous, Myriam Levin. Et toi, tu t'y mets quand? Vous avez publié un récit et une enquête, mais un récit autobiographique. Sophie Cadalen, vous êtes avec nous, vous êtes psychanalyste. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71 pour nous parler de ce que vous ressentez comme pression pour avoir un enfant. Nous donnons la parole à Nathalie qui est à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Nathalie, vous avez 30 ans et vous souhaitez nous parler de la pression que vous ressentez de la part de vos amis et de vos collègues. Vous n'avez pas d'enfant, Nathalie ?
Non, pour le moment, j'ai pas d'enfant.
D'accord. Quelle est votre situation personnelle ?
Je suis en couple, on peut dire, et je suis très occupée professionnellement.
D'accord. En couple, on peut dire ?
Oui.
D'accord.
C'est assez délicat.
Oui. C'est compliqué, c'est ça ?
Oui, c'est compliqué. C'est la bonne option, c'est compliqué.
C'est ça. Mais pourquoi donc ? Expliquez-nous.
Non, c'est compliqué parce que... mon ami voyage énormément, il n'est pas très stable et puis également au travail, j'ai beaucoup de pression, donc c'est assez compliqué pour le moment.
Et pour vous alors, quelles sont les options qui se posent ?
Par rapport à faire un enfant ?
Oui, bah, c'est notre sujet hein, aujourd'hui.
Oui, déjà je voudrais être plus stable professionnellement, ce n'est pas le moment, je suis à un moment de ma carrière où je ne peux pas me permettre de faire un enfant pour le moment. Ensuite, étant donné que mon ami n'est pas très stable, il voyage énormément, ça aussi, ça ne nous permet pas de le faire tout le moment.
Mmh. Et pourtant, vous ressentez une forme de pression autour de vous ?
Parce que mes collègues et mes amis passent la journée à me dire qu'il faut que je fasse un enfant.
Ah oui ?
Chaque jour. C'est grave. C'est terrible, c'est pas possible. C'est comme si on peut... Quand on arrive à 30 ans, c'est bon
ouais.
pour faire l'enfant.
Mais en mode humour ou bien pression insistante ?
Pardon ?
C'est dit avec, on va dire, gentillesse et humour ou plutôt de manière insistante et ça vous met mal à l'aise ?
C'est tout en fait. Gentillesse et humour, insistance, pas insistance, tout. Faut le faire parce que si, parce que tu as 30 ans, parce que tu vieillis, parce que tu n'as pas toujours vieilli, parce que tes ovules te parlent, etc.
Tes ovules te parlent. Et qui vous dit ça, les hommes ou les femmes ?
Les hommes, justement, c'est ça qui est très drôle. Les femmes, un peu moins, mais les hommes, c'est eux qui insistent. Parce que nous, on a précisé aux hommes que jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui poussons vos grossesses. Donc vraiment, donnez-nous la possibilité de choisir.
Et alors aujourd'hui, finalement, comment vous voyez l'avenir, Nathalie ?
Je pense que je vais le faire. Je vais faire un enfant, mais je me dis que dans un délai de 2 ans encore, je peux le faire.
Est-ce que ça sera vraiment votre choix ?
Oui, ça sera mon choix. Parce que j'estime qu'à ce moment-là, dans cet intervalle-là, j'estime être prête à prendre ça en charge. Faire un enfant, ce n'est pas un jeu. On n'en fait pas juste parce qu'on veut en faire.
Donc vous revendiquez de choisir le bon moment.
Oui.
Merci à vous Nathalie de nous avoir appelé. On donne la parole à Aïssatou qui nous appelle du Sénégal, de Dakar. Bonjour Aïssatou.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous avez 32 ans, vous êtes mariée depuis 5 ans.
Oui, effectivement, je suis mariée depuis 5 ans.
Et pas d'enfant.
Et pas encore d'enfant.
Pas encore d'enfant, vous faites bien de le préciser. Mmh. Et alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe plutôt ?
Là, c'est compliqué parce qu'en fait, mon mari m'a donné un ultimatum. Donc, j'ai jusqu'en septembre pour me décider. Si je ne me décide pas, bon, il va prendre une décision en conséquence.
C'est-à-dire, une décision en conséquence, ça veut dire quoi ? Une deuxième épouse ?
Lorsqu'on discute, il aborde ce sujet en rigolant. Mais moi, je mets des limites pour ne pas aborder ce sujet. Donc, voilà. Il ne m'a pas trop dit la décision qu'il va prendre, mais voilà. Donc, ça met un peu un coup de pression en plus.
Et pourquoi, pour le moment, vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, Aïssatou ?
En fait, je souhaite avoir un enfant parce que chaque année, minimum, je voyage, trois fois par heure si mon planning me le permet, parce que je fais de l'audit et je fais beaucoup de déplacements professionnels.
Oui.
Donc, minimum, je fais trois voyages par an pour aller le voir.
Donc, parce que votre mari, en fait, vit en Europe et vous vivez à Dakar, hein, c'est ça?
Exactement, exactement. Donc, on est parti aller voir des médecins, beaucoup de médecins. Ils nous ont dit qu'il n'y a aucun problème, c'est juste que la distance qui pose problème. Et voilà, je crois qu'il a commencé à en avoir marre.
Et vous, qu'est-ce que vous voulez professionnellement avant tout?
Déjà, là, j'ai une promesse de promotion. L'année prochaine, je passerai assistant manager au sein de mon cabinet. Avec augmentation de salaire, voilà, avantage. Et mon problème, c'est que est-ce que je vais avoir cette même situation professionnelle lorsque je vais tout quitter pour aller en France?
Oui.
Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et moi, mon problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas cet appel sur mon couple, en fait.
Bien sûr. Mais alors, vous avez beaucoup investi sur votre carrière professionnelle. Vous avez un super job.
Ah, oui.
Est-ce qu'on vous reproche aujourd'hui à Dakar de faire passer votre carrière professionnelle avant le choix d'avoir un enfant?
Parce que, en fait, pour ma famille, ça ne les pose pas de problème. Parce que pour ma mère, c'est ma carrière professionnelle qui est en priorité. Voilà. Donc, j'ai l'impression que partout en Afrique, je reviens du Mali, de la Guinée.
Oui.
Et c'est des clients qu'on voit sur trois saisons ou quatre saisons. Donc, il y a des affinités, voilà, qui se créent. Et même en Guinée, au Mali, on me demande à quand tu vas penser faire un enfant.
Oui.
Donc, j'ai l'impression que c'est des questions qui me sont régulièrement posées. Voilà.
Bon, merci Aïssatou en tout cas de nous avoir raconté votre histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Levin, Sophie Cadalen, des filles qui veulent réussir professionnellement et qui disent que l'enfant à ce moment-là est incompatible et qui ressentent cette pression?
Oui, c'est une réalité. Alors ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Nathalie, c'est qu'elle raconte aussi comme l'indisponibilité, elle est aussi du côté de son homme, qui lui aussi travaille beaucoup, se déplace. Voilà, c'est réellement une histoire.
Dans les deux histoires. D'ailleurs.
Oui, dans les deux histoires, c'est réellement une histoire à deux. Ce qu'on entend aussi dans ces deux histoires, c'est comme la pression vient aussi beaucoup des hommes. Comme si effectivement que les femmes, non pas qu'elles aient des enfants, mais que forcément elles veuillent avoir des enfants, et donc elles en aient, ce soit la bonne assurance que le monde marche comme il faut qu'il marche. Et là, ça nous renvoie à des tas de préjugés, à des espèces de visions finalement très très figées encore, où le désir d'enfant, voilà, n'est pas questionné comme peut-être absent ou peut-être pas maintenant. Et que oui, aujourd'hui, les femmes, à partir du moment où elles ont réclamé le droit à travailler, à partir du moment où elles revendiquent une égalité d'autonomie, effectivement, la question de l'enfant va se poser en termes de temps et peut-être de non-obligation, j'ai envie de dire.
On a l'impression, Myriam Levin, aussi que les hommes ne parviennent pas à proposer une assurance aux femmes que s'il y a un bébé qui arrive à un moment important de la carrière, tout va bien se passer parce qu'ils sont là eux aussi.
Alors je dirais pas que c'est les hommes qui y arrivent pas, c'est la société qui est pas du tout organisée en fait pour les femmes. Plus c'est revenu plusieurs fois pendant mon enquête, finalement on vit dans une société en France, mais dans la plupart des pays, mais parlons de la France, on vit dans une société pensée par et pour les hommes encore aujourd'hui, et on est dans une illusion qu'en fait les femmes vont avoir les mêmes chances, mais pas du tout. Notamment cette question des enfants à la trentaine, c'est une question qui revient souvent puisque la trentaine est le moment où beaucoup de choses se jouent dans les carrières. Donc en effet, les femmes sont toujours pénalisées puisqu'elles loupent la première promotion, puis l'augmentation de salaire, etc. au moment d'un congé mat, puis d'un deuxième, puis du temps partiel pour s'occuper des enfants. Et tant que ce ne sera pas repensé, tant que par exemple il n'y aura pas un congé paternité ou d'autres aménagements qui répartiront mieux la parentalité entre hommes et femmes, ça continuera de peser sur les femmes et elles seront pénalisées. Et en effet, à la fin de la carrière, bah, les retraites des femmes sont bien moins importantes.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à une voisine qui nous appelle du Bénin. Bonjour Fraîchenelle.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Parakou et vous souhaitez vous exprimer à propos de la pression que subissent les femmes trentenaires qui n'ont pas d'enfants. Vous, dans quelle situation êtes-vous, Fraîchenelle?
Oh, moi, j'ai actuellement 33 ans. Mais avant, j'ai voulu consacrer ma vie aux études. Et puis, puisque je rentrais déjà dans la trentaine, mon entourage a commencé par me mettre la pression que j'attends quoi pour faire d'enfant. Ma petite sœur en avait déjà fait. Et moi, j'étais là en train de dire les études. Ils ont dit non, qu'il n'y a pas question d'études. Il faut faire l'enfant d'abord avant. Et puis après l'enfant, on peut continuer les études, tout ça là. Mais moi, je tenais à pouvoir évoluer un peu avant de pouvoir faire mon enfant.
Et finalement, alors?
Oui, finalement, j'ai fait la grossesse. Je me suis jetée dans les bras du premier venu. Puis j'ai fait un enfant actuellement.
Donc
Et puis,
vous avez un enfant
pratiquement.
avec un homme que vous n'avez pas réellement choisi.
Voilà, j'ai eu un enfant avec un homme que je n'ai pas réellement choisi parce que la pression sociale était devenue intense et insupportable pour moi. Donc, j'étais sur le premier venu, ce qui a fait que j'ai fait l'enfant avec ce dernier.
Mais aujourd'hui, vous regrettez?
Bon, je regrette, j'aurais dû tenir un peu encore et j'ai fait mon bon choix avant de faire mon enfant. Parce que la vie que je vis actuellement, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité.
La vie que vous vivez, ce n'était pas votre choix, finalement.
Non, non, c'est pas mon choix.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux autres femmes qui vous écoutent, Fraîchenelle? Parce que cette question, elle est universelle, de la question de l'enfant, du moment, de oui, non, y compris pour le deuxième enfant, d'ailleurs, pas seulement pour le premier.
Oui, j'aimerais dire aux femmes africaines surtout de ne pas faire attention à tout ce que l'entourage nous dit, mais que nous, les objectifs que chacune se fixe, qu'elle puisse atteindre ses objectifs avant de se lancer dans la vie de couple ou de foyer. Ce n'est pas parce que les gens parlent que nous allons écouter et puis nous lancer dans de n'importe quoi. Ça ne nous arrange pas. Le
Tracer
travail
sa
d'abord.
route et écouter ensuite, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Merci à vous, Fraîchenelle, de nous avoir appelés. C'est difficile en même temps parce que même dans un pays comme la France, on voit bien que la pression sociale de la société, d'ailleurs, n'est pas la même que dans un pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, où il y a des taux de natalité, d'ailleurs, qui sont très faibles, ou les États-Unis, où une femme peut être considérée comme ayant réussi. Avoir réussi sa vie sans avoir d'enfant, Sophie Cadalen.
Ah oui, en France, on a un attachement à la maternité très très puissant et en plus déguisé, très hypocrite. C'est ça qui coince. Votre voisine là qui dit voilà, qui donne un conseil à toutes les femmes africaines de résister aux injonctions,
Oui, mais on ne vit pas sur une île déserte, hein, on vit tous quand même parce qu'on est entouré de tout un groupe
exactement.
d'humains.
Mais
Et
en
c'est ça aussi
France,
qui est
ce qui est
bien.
aussi compliqué, alors peut-être les injonctions ne sont pas si puissantes, mais elles sont tout aussi importantes et déguisées. C'est-à-dire qu'on ne dit pas. Ah, voilà, j'imagine Myriam, on ne lui dit pas 10 fois par jour, dépêche-toi de faire un enfant. Mais il n'empêche que c'est quand même là, que c'est quand même là, qu'à un moment donné, ça sort sournoisement, des petites
Quand
piques,
on
des
vous
petites
dit ça
remarques. C'est
aujourd'hui, Myriam
suspect.
Levin, vous dites oh, bah, t'inquiète pas, j'ai congelé mes ovocytes et ça coupe court au débat ou pas?
Pas vraiment. Alors c'est vrai que finalement, en vrai, on m'en parle pas directement. C'est vrai que jamais on me dit qu'est-ce que tu fais, etc. Moi, j'ai l'impression que les gens qui sont en couple et qui n'ont pas d'enfants, on leur pose directement la question. Moi, c'est vrai qu'on sait pas trop. Voilà, la pression, elle est plus insidieuse en effet, et toujours cette suspicion. Finalement, c'est pas tellement pourquoi tu fais pas d'enfants, mais c'est quel est ton problème et tu n'aimes pas les enfants. Voilà. Et ça, je sais que beaucoup de gens la ressentent et ce sera jamais dit directement. On considère qu'une femme qui n'a pas d'enfant a un problème. On en est un peu encore là et peut-être que c'est la même chose pour les hommes, mais les femmes le vivent de plein fouet.
Mais pour vous, la congélation des ovocytes, vous dites carrément dans votre livre que c'est un combat féministe, que c'est le prolongement du droit à l'avortement, du débat sur l'accès à la contraception il y a fort longtemps.
Oui, en fait, c'est aussi ça dont j'ai pris conscience l'année dernière. En fait, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés en quelques mois, et je l'évoque dans le livre, la mort de Simone Veil, au moment de l'avis du Conseil national d'éthique, où on est revenu sur toutes les conquêtes féministes. Je trouvais que finalement, à l'époque, on avait beaucoup avancé sur l'IVG, et que là, on n'était pas capable d'avancer sur la conquête d'après, et que finalement, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, la fenêtre de tir, elle est toujours aussi étroite pour les femmes. Il y a une forme d'hypocrisie, justement, où on nous dit qu'on peut tout faire, travailler, avoir une famille, être une super maîtresse, une super amie, sauf qu'en fait, la fenêtre de tir, elle est de 5 ans à peu près, et qu'on n'y arrive pas, que celles qui essayent de tout faire font des burn-out, que celles qui font pas tout, on leur demande quel est leur problème, et que peut-être, du coup, cette congélation est une chance de réussir à avoir tout mais peut-être pas en même temps.
C'est la grande question. Effectivement, les femmes peuvent-elles tout avoir? On en reparle juste après. Beyoncé. Run the World chez Beyoncé, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la pression pour la maternité chez les trentenaires, des trentenaires qui, un peu partout dans le monde, on l'a entendu avec des témoignages de voisines en Afrique, mais également l'histoire de Myriam Levin. Sophie Cadalen, on en discute avec vous sur ce que disent aujourd'hui les femmes de l'Europe à l'Afrique en passant par l'Amérique. Elles ont envie de se réaliser professionnellement pour faire partie tout simplement de la société, hein. Non pas parce qu'elles ont envie de travailler forcément 15 heures par jour, mais du coup, la question d'avoir un enfant, oui, non, et surtout à quel moment, devient de plus en plus compliquée, avec une certaine pression sociale dans certains pays, mais pas partout. Sophie Cadalen, qu'est-ce qui a changé finalement dans la façon aujourd'hui de concevoir sa vie amoureuse, sa vie familiale et sa vie maternelle?
Oui, on a une
parce
grande...
Parce que peu de très jeunes femmes disent, non, mais moi j'aurais pas d'enfant. À 30 ans, il y a peu de femmes qui disent ça, qui disent « je ne veux pas avoir d'enfant ».
Il y en a quelques-unes.
Elles sont pas... 4%,
oui.
À peu près.
Et j'ai presque envie de dire, j'ai peut-être choqué, mais je dirais qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que ce désir d'enfant, il paraît aller de soi. On a l'impression que parce qu'on est femme, on veut forcément un enfant. Et là, il y a une espèce de confusion. Alors, on veut aussi
c'est
aimer.
Pas audible aussi socialement, de
non,
dire...
Non, c'est pas audible socialement. Je pense que c'est vraiment le grand, grand tabou encore dans notre société. Une femme que Myriam disait tout à l'heure, voilà, elle est forcément suspecte de ne pas avoir d'enfant. Et celle qui dit « je ne veux pas avoir d'enfant », alors là, elle a un problème. Et elle va le regretter forcément un jour. Non, non, c'est très, très compliqué à assumer. Et on est dans cette espèce de confusion. Alors, il y a maintenant l'affirmation de vouloir réussir sa vie sentimentale, et pas à tout prix. C'est-à-dire que c'est pas forcément être avec quelqu'un, mais être avec quelqu'un qu'on a choisi, avec lequel on construira, avec lequel peut-être on voudra un jour faire un enfant, sans que pour autant, voilà, on mette un frein forcément à sa carrière, à son métier, que l'on aime en général. On parle de femmes qui ont choisi ce qu'elles font et qui s'épanouissent. Donc tout ça fait une espèce de mélange qui fait que je vois des femmes arriver des trentenaires. Alors elles ont le travail, mais elles n'ont pas forcément l'homme encore et l'enfant. Elles ne savent pas, mais ce qu'elles en veulent seulement. Mais ça devient une espèce de magma très angoissant.
Mais vous semblez dire que la maternité n'est pas reliée à la vie amoureuse ?
Pas forcément. Pas forcément. On peut avoir envie d'aimer avant que d'avoir envie de faire un enfant. Et puis, on peut avoir envie d'un enfant sans forcément avoir envie de s'engager dans l'aventure amoureuse. C'est peut-être ça qu'offre aujourd'hui la possibilité de nos vies. On en parle théoriquement, concrètement, c'est encore regardé, entendu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance.
Myriam Levin, vous, qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez congelé vos ovocytes dans votre façon, pas dans votre travail, mais dans votre façon d'appréhender votre vie personnelle et amoureuse, parce qu'il faut quand même le dire.
Franchement, pas grand-chose, parce que justement, comme je...
Vous n'avez pas trouvé l'homme de vos rêves.
C'est récent, je l'ai congelé il y a quatre mois, donc voilà. Et puis j'ai conscience que c'est pas du tout une assurance bébé. En revanche, oui, il paraît que plus les années vont passer, plus je vais être contente de l'avoir fait. Et surtout, voilà, je suis contente de me dire que j'ai fait quelque chose qui peut-être va m'émanciper de certains schémas. Voilà, il y a aussi toute cette dimension féministe qu'on a un peu évoquée et qui m'a intéressée et que j'ai envie de transmettre. J'ai aussi envie de dire, on peut faire autrement, voilà ce que disait Sophie Canalen, on peut aussi s'affirmer hors des schémas, et c'est ce que je suis en train de découvrir finalement sans l'avoir prévu. La vie n'est pas du tout comme je l'avais prévu, et c'est pas forcément moins bien, il y a des nouveaux modèles à inventer, et si je peux faire entendre ces voix, j'en serais ravie.
Que font les femmes avec leurs ovocytes vitrifiés? Que disent les statistiques des cliniques que vous avez contactées en Belgique, en Espagne?
Alors, c'est à prendre avec des pincettes.
Est-ce qu'elles s'en servent un jour ou pas? C'est toute la question.
La majorité ne s'en servent pas, mais encore une fois, c'est des très petits nombres de femmes. Ça, c'est une dizaine d'années seulement, on a très peu de recul. Mais pour l'instant, les chiffres qui reviennent, c'est 90% des femmes ne s'en servent pas, soit parce qu'elles n'ont pas d'enfant, soit parce qu'elles ont un enfant naturellement dans la foulée. Donc pour l'instant, c'est vrai que finalement, c'est pas, ça reste encore expérimental.
Mais ça veut dire que, qu'est-ce que vous attendez du rapport, du prochain rapport du CCNE, du Comité Consultatif National d'Éthique? Parce qu'il y a un an, il s'est prononcé contre la congélation des ovocytes. Il rendra un nouvel avis en septembre prochain, qui est un avis seulement consultatif. Mais ensuite, ça sera au législateur de proposer un texte de loi. Vous, qu'est-ce que vous en attendez? Vous aimeriez que ça soit légalisé et remboursé par la Sécurité sociale, en sachant que c'est finalement très peu utilisé ensuite dans la réalité pour concevoir un enfant?
En fait, on ne sait pas comment ce sera utilisé. On ne sait pas s'il y aura beaucoup de femmes qui l'utiliseront, mais on peut raisonnablement penser que non. Sur la Sécu, franchement, je suis pas compétente, mais il y a plein de gens très compétents qui peuvent réfléchir à des systèmes de financement et qui sont prêts à le faire. Moi, j'ai juste envie que déjà ce soit légalisé. Le financement, on verra après, mais de pouvoir le faire, de laisser les femmes choisir, qu'elles soient au moins au courant qu'elles ont cette possibilité, parce que c'est vraiment ce qui me frappe, qu'elles ne savent pas.
Pour celles qui ont les moyens, on leur a compris.
Pour l'instant, mais ensuite, on peut réfléchir à un financement. Il y a plein de façons de faire payer certaines qui ont les moyens, pas d'autres qui n'ont pas les moyens, ou alors que ce soit... Enfin, vraiment, c'est des finances publiques, mais il y a des gens très compétents qui peuvent nous proposer une solution, sachant que je ne pense pas que ce sera quelque chose qui sera utilisé massivement. Les femmes continueront à être en couple, à faire des enfants naturellement, sous la couette, ça coûte moins cher, ça fait moins mal. Mais pour toutes ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses à se retrouver un peu prises par le temps, ça peut être une vraie chance.
Un enfant plus tard, ça ne change pas grand-chose quand même à la question de fond. Un enfant avec qui? Pour quel partage des tâches, hein?
Oui, et ça change pas grand-chose à la question. En tout cas, ça la permet peut-être davantage à la question, et un enfant peut-être.
Ouais.
C'est surtout de ça dont il est question.
Oui, rien n'est. Il faut aussi questionner ce qu'on disait. Cet enfant à tout prix. Est-ce qu'on en veut avec la bonne personne? À quel moment? Et ensuite, évidemment, alors on ne se lance pas maintenant à 5 minutes de la fin de l'émission sur le débat sur la répartition des tâches. Mais ça, effectivement, c'est lié aussi.
Ouais. Et un enfant, si je veux, est-ce que vous y voyez plus clair dans cette question-là pour vous maintenant?
Oui et non. C'est-à-dire que, comme le disait Sophie Canalen, ça dépend aussi beaucoup de la bonne rencontre au bon moment. Et ça, j'y peux pas grand-chose.
Affaire à suivre. Donc, merci à vous, Myriam Levin. Vous publiez « Et toi, tu t'y mets quand ?» aux éditions Flammarion. Merci à vous, Sophie Canalen. Vous êtes psychanalyste et vous avez publié « Aimer sans mode d'emploi » aux éditions Erol et « Vivre ses désirs vite » chez Point Poche. Dans quelques instants, ce sera « L'Afrique qui gagne », portrait d'une lycéenne guinéenne qui n'a peur de rien.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
C'est vrai que nous avons des lois, nous avons ratifié des conventions relatives aux droits des enfants, le code de l'enfant guinéen, et il est interdit, formellement interdit, de donner un enfant en mariage. Et donc, si nous avons tous ces outils qui nous permettent vraiment d'arrêter ce fait, il faut vraiment agir, il faut vraiment qu'on arrête maintenant de parler trop de sensibilisation, il faut vraiment qu'on arrête, il faut vraiment qu'on mette la main sur ces auteurs, qu'on applique la loi et que ça soit un exemple pour les autres.
L'Afrique qui gagne, c'est difficile à croire, mais la jeune fille que vous venez d'entendre et qui s'exprime à la télévision nationale en Guinée-Conakry n'a que 18 ans. Un foulard vert entoure son visage très fin. Elle porte au cou un pendentif en forme de continent africain. Hadja Idrissa Ba est l'invitée du journal parce que son association, le Club des jeunes filles leaders de Guinée, a tenté d'interrompre le mariage d'une fille de 14 ans. Idrissa bouscule l'ordre des choses dans un pays où la quasi-totalité des femmes sont excisées. Elle a choisi de lutter contre les violences dont sont victimes les femmes dans son pays. Elle préside le Parlement guinéen des enfants, le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Mais à l'approche du bac, comment concilier sa vie de lycéenne avec toutes ses activités? Comment s'opposer à des pratiques faisant partie de la tradition tout en conservant son identité? Portrait de Hadja Idrissa Ba, signé Carole Valade.
La dernière fois, on nous a suggéré d'inviter aussi les parents. La dernière fois, j'ai écouté une discussion de deux femmes. Tu sais ce qui s'est passé? Il y a une femme qui disait, voilà, elle se vantait. Tu sais quoi? Moi, je me suis mariée à l'âge de 14 ans. Et que toi, tu connais. Moi, je me suis mariée à l'âge de 13 ans. Tu vois? Elle se vante. qu'elle se vante de ça. Comme elles se sont mariées à l'âge, à bas âge, maintenant, eux, c'est ça la valeur.
J'avoue que cette réunion est vraiment exceptionnelle parce que nous avons reçu aujourd'hui des étrangers qui étaient là pour partager avec nous des projets, des idées de projets qu'ils ont. Et ils ont un projet pour vraiment aider les jeunes à s'exprimer à travers des films, à travers le cinéma. Et donc, ils font ça dans les écoles.
Ça te prend beaucoup de temps, le club des jeunes filles ?
Oui, beaucoup. Je dirais beaucoup parce que aujourd'hui, je suis très, très concentrée, c'est vrai, avec mes études. Mais je suis beaucoup plus concentrée avec le club des jeunes filles et le Parlement des enfants. Parce qu'on m'appelle. Avec les actions que nous avons menées tout dernièrement, mon numéro, c'est vrai, il est connu, mais on ne fait que m'interpeller sur des cas de mariage ou des cas de violence où je suis obligée, quelle que soit la situation qui est devant moi, je suis obligée parce que j'ai pris un engagement d'aller et d'essayer de régler ces problèmes. Et donc, je ne veux pas lâcher du tout, on ne va pas lâcher parce qu'on a commencé et on veut montrer l'exemple.
Et du coup, ça, c'est une grosse responsabilité.
Une très, très grosse responsabilité. À force de me voir, par exemple, je suis vrai. Présidente du Parlement des enfants, je dis voilà, je suis la présidente du Parlement des enfants. Non seulement il y a plus de 114 députés juniors dont je suis la présidente derrière moi, mais aussi il y a tous les enfants de Guinée qui sont derrière moi.
Toutes ces responsabilités là, ça te fatigue pas un peu des fois?
Si, ça me fatigue beaucoup parce que moi je n'ai pas de repos. Du lundi au samedi je suis à l'école et je fais le bac, je prépare le bac. Et c'est très très difficile pour moi parce que si après l'école aussi j'ai 3 profs de révision, quand je rentre je dois réviser, on m'appelle à des réunions, on m'appelle à des activités, des fois j'essaye de casser à l'école, je dis voilà je m'en fiche, je prends une permission, je dis s'il vous plaît, voilà je pars à une activité très importante. Et des fois aussi je voyage, par exemple dans le mois je voyage plus de 3 à 4 fois, je voyage tellement parce que par exemple demain je dois bouger. On doit bouger pour la Sierra Leone et je reviens dans 4 jours. C'est comme ça que ça se passe. Mais si nous, les anciennes générations n'ont pas pu faire quelque chose pour nous, à nous de nous lever parce que l'heure est grave.
C'est la circulation à Conakry, il faut s'imposer.
C'est clair. Avec les embouteillages là, je vous assure, c'est compliqué.
Et d'où elle te vient, cette aisance à parler en public?
Ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que mon combat, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Donc depuis à l'âge de 13 ans, j'avoue que j'ai commencé à travailler dans les organisations, dans le Parlement des enfants. J'étais députée junior. C'est juste une aisance qui ne vient pas d'un coup, mais qui s'apprend en fait.
Avec l'expérience alors?
Avec l'expérience, c'est clair. En fait, au début, j'avais le trac. Donc, on me poussait, on me coachait à travers en fait mon coach. Donc, il m'a vraiment aidé, il m'a appris comment communiquer à travers les médias.
Où est-ce qu'on est?
Ah, ok, nous sommes chez moi. Et voilà, il y a mes parents qui m'attendent en haut et mes petits frères et toute la famille. Vous voyez, en fait, mon père, il insistait à ce que je suive le journal, à ce que j'arrête de regarder des séries, à ce que je change. Et au niveau de l'école, je me sentais un peu plus différente que de mes amis parce que moi, déjà, j'appartenais à une organisation qui défendait les droits des enfants. Et donc, je me voyais beaucoup plus grande devant mes amis en ce moment. Et ce n'est pas, en fait, le moment. Moi, je me dis dans la tête que le moment de blague, ce n'est pas maintenant.
On est sérieux même quand on a 18 ans.
Oui, très sérieux. Et ça me fait rire, en fait. Des fois, même dans mon école, tu vois, mes amis disent qu'elle se fait vieillir, c'est-à-dire qu'elle ressemble déjà à une grande dame.
Non, pourquoi tu parles beaucoup? Tu as tellement à dire,
non,
mais
non,
tu fais détailler et tout.
Écoute, par exemple, moi, c'est ce que j'ai dit là. Ok, nous sommes juste au niveau de la maison centrale.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
Bon, nous sommes là dans le cadre d'une rencontre avec une jeune fille de 20 ans dont nous avons vu les échos sur les réseaux sociaux. Ça fait 8 mois depuis qu'elle est incarcérée dans cette prison et elle n'a pas été jugée. Donc, il se trouve aussi que cette même jeune fille est enceinte de 8 mois. Et donc, nous, on est là dans le cadre d'aider cette petite parce qu'on s'est dit qu'elle n'est pas du tout en sécurité.
Est-ce qu'on ne te reproche pas des fois de lutter et de défendre des valeurs occidentales qui n'ont pas forcément leur place en Afrique?
Nos parents considèrent le mariage des enfants, les mutilations génitales, l'excision comme étant des traditions à préserver. Les personnes qui ne sont pas avec nous dans la lutte, ce sont ces personnes qui nous considèrent comme étant des jeunes qui ont été corrompus par peut-être les occidentaux qui veulent vraiment débarrasser les traditions. Mais nous avons plein de traditions, mais nous avons plein de valeurs. Ce n'est pas la seule valeur en Afrique. Donc si nous voyons vraiment que ça a des conséquences, alors il faut s'en débarrasser et continuer avec les bonnes valeurs. Parce qu'on utilise nos propres moyens, ce n'est pas quelqu'un qui nous paye vraiment pour aller dire il faut stopper un mariage d'enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui nous paye pour dire voilà, il faut stopper un cas de violence ou de viol ou d'excision. Mais malheureusement dans nos sociétés, lorsque cette jeune fille-là atteint l'âge de la puberté, on le prend, on lui donne un mariage et son rêve est brisé, sa jeunesse est brisée et qui sait ce qu'elle pourrait faire pour la Guinée. Et donc il faut vraiment que ça cesse et moi je suis encore fière, je resterai toujours fière d'être une jeune fille guinéenne parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour avoir un titre, je ne le fais pas pour de l'argent, mais je le fais pour la Guinée, Inch'Allah.
Adja Idrissaba, lycéenne et activiste en Guinée-Conakry. Bien évidemment, vous pouvez retrouver son portrait sur l'appli RFI Pure Radio. Vous cliquez sur magazine et vous réécoutez l'émission 7 milliards de voisins et vous la partagez surtout. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, Marion Goubard. Demain, 7 milliards de voisins. Ne manquez pas le reportage enquête de Charlie Dupiot sur les travaux gigantesques du Grand Paris. 68 nouvelles gares en construction, 200 km de métro d'ici 2030 pour un grand projet de mégalopole internationale. Les bulldozers sont encore à l'œuvre, mais la spéculation immobilière est déjà là. Et les habitants des classes populaires installés depuis des décennies et qui attendaient le métro pour être enfin connectés à la métropole se retrouvent repoussés toujours plus loin de la capitale, notamment par les bailleurs sociaux pour les logements sociaux. Alors pourquoi les classes populaires semblent être devenues indésirables dans les villes, reléguées à la périphérie? Ne manquez pas l'enquête et le reportage, c'est le rendez-vous demain de 7 milliards de voisins à 10h10, temps universel. Merci à vous tous les voisins et les voisines de votre fidélité.